Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster?
Have we met?
Yeah. No, we have.
On se connaît?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour et bienvenue dans Déjà Vu, le podcast cinéma à propos des films et de leurs remakes. Peu connu, meilleur que l'original ou même carrément inutile, on va vous parler de cinéma et on va les comparer sur tous ces films et savoir lequel est le meilleur. Aujourd'hui, avec moi, nous avons Vincent.
Bonjour Maxime.
On a Géraldine.
Bonjour.
Et on a Mélissa.
Salut.
Et on a Maxime.
Salut. Attendez.
Oh non!
Oh, j'ai tué une mouche!
Est-ce qu'elle avait une tête blanche?
Voilà, c'était
le meilleur sketch de toute l'histoire de l'émission.
Voilà, ouais. je vous avais prévenu, ça allait commencer sur les chapeaux de roue. C'était une jolie passe décisive sur le sujet du film d'aujourd'hui. On
Mais
va parler de quoi?
Bah, je ne savais pas.
Bah, on va parler de la mouche!
Avec un accent belge.
Voilà.
Parce que pourquoi pas?
En effet, les deux films d'aujourd'hui, c'est donc La Mouche Noire.
Oui.
Titre, la mouche noire,
français, ouais. The Fly, titre original, qui est sorti en 1958. Je vérifie, parce que sinon,
54.
Je vais me faire taper sur les...
58.
Oula, je mets tout de suite un coup de fouet. Un jour, mes notes.
Et son remake, qui est sorti en...
1986.
6, exactement. Il s'appelle également The Fly en anglais et La Mouche, tout simplement, réalisé par David Cronenberg.
Avez-vous déjà vu?
Est-ce que vous aviez vu les films? Quel a priori vous en avez?
J'avais vu La Mouche de Cronenberg. J'avais pas vu l'original. Et gros souvenir sur La Mouche. Enfin, un film assez marquant. Deux, trois scènes, on en parlera tout à l'heure, mais qui m'avait, moi, bien marqué étant gamin.
Géraldine.
Moi, pareil, j'avais vu La Mouche de Cronenberg, mais pas La Mouche Noire. Et je l'ai vu assez tard, en fait. Ça faisait pas si longtemps que je connaissais ce film, en fait.
Comme Mélissa.
Ouais, moi, j'avais vu La Mouche assez jeune, d'ailleurs. Je pense que j'avais 8-9 ans, un truc comme ça. Donc, c'est resté dans mes films cultes, avec des blagues, avec des copains. Brundlemouche. Vraiment un truc dans ma culture qui est resté. Et La Mouche Noire, je ne crois pas l'avoir vue, mais la scène de fin me dit fortement quelque chose. Donc, ça se trouve, je l'ai vue et j'ai juste effacé de ma mémoire. D'accord. On expliquera pourquoi.
Bizarre.
Quant à moi, j'avais vu également le remake qui m'avait aussi laissé des traumatismes, hein, bien entendu. Et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça en plus, il y a peut-être 5-6 ans.
C'est pas un de ces films que tu as vu entre deux lattes de plancher.
Quand tu n'avais pas le droit de regarder.
Derrière des barreaux de chaises.
Non, c'était pas ça. C'est plutôt un film où je m'étais dit, faut que je fasse ma cinéphilie. Ouais.
À 8 ans, tu sais, le mec. Il faut vraiment que je vois mes classiques là.
Parce
qu'il y a des enfants qui sont très matures.
À 26 ans dans mon appartement, et puis je pense que j'avais pas dormi après.
Oh.
Je vois plus les babouins de la même façon.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Pour cette émission, je vais essayer un nouveau concept. Essayer de faire un résumé qui est moins long que le film dont on parle. On va essayer. Donc effectivement, La Mouche de 1958, c'est ce que j'avais dit. Hein. Donc c'est un film allemand de Walter Reich. Hein, ça ne s'invente pas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on... C'est pas ça? Pourquoi tout le monde me regarde?
C'est pas Kurt Newman.
C'est vrai? Oh, j'ai vraiment tout mal noté, quoi. Bon, écoutez, et franchement, vous avez Wikipédia, vous recherchez. C'est pas ça, le réel? Non. Mais c'est qui alors, Walter Reich?
Et surtout, on n'a pas regardé le bon.
J'espère que j'ai regardé le même film que vous.
Will everyone in the theater hold on firmly to his seat, please? I'm Vincent Price. What unearthly horror did that girl gaze upon? What manner of incredible thing walked beneath that hood? It would be unfair at this time to show you any more of what went on in that laboratory where a man actually dared to play God. So fantastic, words can't begin to describe it. You must see it with your own eyes to believe it. When the fly comes your way.
It isn't like any other fly I've ever seen.
No! 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 Please, let me look at the fly!
I've killed Andre. Please help me. Call the police and...
The charge can only be murder.
There were no mistresses. I had no lovers.
Why did you kill him?
God, don't let it get out.
Inspector, it's in the garden. Come quickly. As God is my witness, I saw the thing. It's unbelievable. I shall never forget that scream as long as I live.
The fly is on its way. Watch out for it. It's far beyond anything your mind could ever conceive.
C'est l'histoire d'une nana qui essaye d'attraper une mouche. C'est ça le film en fait.
C'est ça.
Et en fait, ça commence par un meurtre. André Delambre, qui est un scientifique et qui se fait finalement écraser. C'est bon, on parle du même film. Ok. Qui se fait écraser sous une presse hydraulique par sa femme, Hélène, dans le hangar, l'entrepôt, l'usine, je ne sais quoi, d'une entreprise qui s'appelle Delambre Frères Electronics. Et ensuite, on a une sorte de flashback. On comprend un petit peu tout ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui a amené Hélène à tuer son mari. Et donc André Delambre, donc c'est un génie, il travaille sur de nombreux projets, notamment sur la téléportation, et donc il a un laboratoire, et il a deux cabines à l'intérieur, et voilà, il fait des expériences là-dessus, et lui il appelle ça un désintégrateur-intégrateur.
Oui,
c'est pas des
c'est rassurant déjà le nom.
Ouais, désintégrateur-intégrateur, et voilà, après nous on a vu, je pense qu'on a tous vu la VF.
Très formidable. Hein,
Donc il fait des essais sur des objets, puis ouais. sur des animaux, et puis sur lui. Et à ce propos, il a une expérience un petit peu malheureuse avec Dandinette, oh. le chat de la famille, ouais. qui est désintégré, mais qui n'est pas réintégré. Donc elle n'apparaît pas dans la même cabine, mais on l'entend miauler un peu au loin, comme ça, il y a André qui regarde un peu en l'air, mais voilà, jamais plus on aura de nouvelles de Dandinette. Plus tard, André l'avouera à sa femme et dira « C'est maintenant un flot d'atomes félins ». Mais ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à noter qu'avant d'avoir la brillante idée de désintégrer son chat, André lui donne du lait. Alors, tout le monde sait que ce n'est pas une très bonne idée de donner du lait de vache à des chats. Car en fait, alors ce qui se passe, Maxime, je te remercie de poser la question. Parce qu'en fait, les chats, ils ont une enzyme, quand c'est des chatons, pour digérer le lait de leur maman. Mais une fois qu'ils sont sevrés, ils n'ont plus cette enzyme. Donc, ce n'est pas une super idée de donner du lait de vache parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont digérer facilement. Voilà,
mais,
donc,
mais pas que
ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont des chats.
Dandinette, elle ouais, est un peu dans l'entre-deux. Hein. C'est un jeune chat quand même. Dandinette.
Bon, il y a un débat sur le chat. Il y a un sujet là-dessus, il y a un débat.
Est-ce qu'on peut faire la bio de Dandinette, Mélissa?
Moi, je veux. Quel chat joue Dandinette?
De toute façon, moi, j'étais pas sur la bonne fiche Wikipédia. Je peux pas vous répondre. Posez pas trop de questions. Donc, très rapidement, on comprend qu'André a plus ou moins échangé son corps avec celui d'une mouche. C'est-à-dire que, voilà, on connaît l'histoire. Hein, c'est comme dans le Cronenberg. C'est comme dans la nouvelle ou le roman, en fait, duquel c'est adapté. Et donc, effectivement, il fait une expérience sur lui, de téléportation entre les deux cabines. Et il y a une mouche qui rentre en même temps que lui. Il a donc une tête de mouche et une patte de mouche à la place du bras gauche. Et il y a donc une mouche qui traîne et qui a la tête d'André et un bras d'homme à la place d'une patte. Ça, on le comprend assez vite. Voilà, donc pour plus de commodité pour la suite de ce résumé, on va appeler André, on va l'appeler André Mouche, et la mouche, on va l'appeler Mouche André. C'est plus clair, je pense. Hélène, finalement, elle est obligée de tuer son mari parce que c'est pas vivable.
La créature.
Et donc, en fait, tout le film, en fait, c'est un peu une enquête. Il y a l'inspecteur Charas qui vient et qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y croit pas à cette histoire-là, parce qu'effectivement, c'est un petit peu dur à avaler. Mais à la toute fin, il voit Mouche André. Donc il voit une petite mouche effectivement avec une tête, bah, avec la tête d'André et un bras, et elle est dans une toile d'araignée et on entend « Aidez-moi, aidez-moi » avec une toute petite voix. Et finalement, ils sont en train d'embarquer Hélène pour meurtre. Et donc là, en fait, l'inspecteur Charas voit, il l'écrase avec une pierre. Du coup, il y croit. Mais là, il y a François, donc le frère de feu André, qui lui dit « Mais si Hélène était accusée pour meurtre pour avoir tué André Mouche, eh ben vous venez de tuer Mouche André, c'est pareil.
Ouais.
Et donc finalement, voilà, d'un commun accord, ils décident que personne n'est coupable.
parce que le flic...
Et que tout le monde va bien, franchement.
L'inspecteur Charas aussi irait en tôle, donc c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc ouais. Finalement, voilà, ils décident de s'en tenir là.
C'est la justice comme on l'aime, quoi.
Voilà, et on a une fin assez heureuse finalement, où Hélène, il y a... le fils Philippe vivent sans André, voilà. Mais
ils vont au zoo.
Ouais. Ils vont au zoo, apparemment, ça se passe bien.
Ils s'en remettent plutôt bien.
Hein. Quand même plutôt rapidement.
C'est un gamin solide. Hein.
Il est parti.
Ah oui, t'as déjà vu ça ?
J'aime beaucoup quasiment la toute première scène. Donc effectivement, André vient de se faire écraser comme une merde, on peut le dire.
Comme une mouche.
On voit François Delambre, qui bosse dans l'entreprise François Delambre Electronics, qui reçoit un coup de fil Hélène, qui est paniquée, et qui lui dit « François, je viens de tuer André, il faut que tu m'aides !»
Un peu trop d'émotion, là, je trouve.
Et lui, il dit Voyons, il a une minute passée, j'ai une journée très dure. Pas du tout ému pour un sou. Et je me suis dit, oh là là, c'est ce ça. Film, il va être bien. Quoi.
Ouais, déjà, ça commence fort.
Ouais. Alors moi, les scènes qui m'ont marqué, c'est ce genre de choses. En fait, c'est vraiment des punchlines. Et il y a Philippe aussi, on en parle de Philippe.
Je crois que Philippe est avec
Philippe
nous.
Philippe est là. Hein.
Philippe, est-ce que vous êtes là?
Mais non, je ne suis pas là, enfin, papa. Je peux jouer avec Tandinette.
Alors, faut savoir que Philippe a quand même la voix est doublée par le doubleur qui a fait la voix de chaque enfant acteur de l'époque, j'ai l'impression.
Bah, qui avait un petit problème de voix, apparemment.
Qui était probablement un adulte, hein, je pense.
Après, c'est l'époque aussi, ils ont l'air un peu suréduqués, genre « Mais enfin, que dites-vous ?» Personne ne parle comme ça.
Mais c'était souvent des
après,
femmes,
si, quand même, quand tu vois des enfants des années 50 parler sur les archives de l'INA et tout ça, ils ne parlent pas du tout comme les enfants
vrai,
d'aujourd'hui, quoi.
C'est vrai, il parle un petit peu comme des petits adultes. Ouais.
Donc Philippe, donc c'est le fils d'Hélène et André. Donc je sais pas, il a 6-7 ans, non, un truc comme ça, je pense.
Il entre 6 et 40 ans, selon sa voix.
Alors, par contre, du coup, il a des punchlines vraiment d'un adulte.
Ouais.
Et à un moment donné, donc, du coup, il mange avec son oncle François. Donc il y a la servante qui est là, qui leur donne, qui les sert, machin et tout. Lui, il lui sert un petit fond de vin rouge avec de la flotte.
Bah oui.
Vous vous rappelez ce roi? Et donc déjà, du coup, tu dis, ah oui, c'est vrai, c'était les années 50, ouais, c'était vraiment différent. Quoi. Et donc, Philippe fait ça, il boit, il fait, c'est bon ça. Vous vous rappelez ça?
J'ai même pas fait gaffe.
Bah moi, j'ai une fille, moi, ça m'a choqué direct. Je fais, ah ouais, bah d'accord. Okay. Et puis après aussi, je sais plus, il parle avec son... T'as pas une clope pour aller avec ça.
Au cinéma, mais enfin, on ferait mieux d'aller aux prostituées, papa.
Il parle avec son oncle et tout ça, et puis il lui dit, oui, maman a cherché une mouche, parce que là... Et donc il dit, ah bon, elle a cherché une mouche, machin, et tout. Et il dit, oh, tu sais comment sont les femmes, hein. Et donc t'as Philippe, 6 ans, qui sort ça à son oncle.
Ouais, il parle de sa mère, en plus.
Il parle de sa mère, c'était assez...
Tu connais les femmes.
Ouais.
Genre, oui, mais après, oui, c'est les années 50, quoi.
C'est ça. Oui, Philippe, fais-moi aussi... part de ton expérience avec les femmes.
C'est ça.
Ah, tu sais, entre un verre de vin et une clope, je connais les femmes.
Oui, je pensais à l'époque. Enfin, par exemple, quand on ouvre le frigo, on le ferme pas et on le laisse ouvert pendant 15 minutes, et ça pose aucun problème. Il n'y a aucun souci. On dort la lumière allumée aussi, hein, parce que sinon, la caméra ne pourrait pas voir le visage de la mère.
Et puis en bas, ça consomme les expériences. Hein,
bah oui, attends.
Et attention, il a plus de 200 000 $ dans l'équipement, hein, c'est ce qu'ils disent.
Ouais. Et surtout, on quitte jamais son impère.
Non. Elle est toujours très bien habillée, Hélène, toujours des petites robes. Mais ça, bon, je pense que c'est l'époque. Si t'es une femme qui se respecte, tu te fais bien, okay, même pour tuer ton mari. Petite perle, boucle dorée.
Elle est toujours très bien maquillée, toujours très bien coiffée. Elle est très distinguée. Et en plus, elle est très sympathique.
Mon Dieu. J'ai déjà vu ça.
Le côté enquête n'est pas si inintéressant, franchement, avec l'inspecteur Charras.
Bah, c'est un film d'enquête, en fait. C'est ce qu'on n'a pas trop...
Ouais. Mais Who ça... Done It.
Alors, ce qui est marrant, c'est Who Done It, on le sait dès le début, qui a fait le crime.
Ouais, c'est pourquoi, en fait.
Et ouais. C'est ça. Et en fait, au début, il n'y a pas du tout d'éléments de science-fiction. C'est que, on sait qu'il y a une personne qui est morte. Il y a sa femme, Hélène, qui dit qu'elle l'a tuée. Et après, on a ce flashback parce qu'elle va nous raconter un petit peu à la façon de Columbo.
Ce flashback qui arrive quand même longtemps après, je ne sais pas combien de minutes, mais j'ai trouvé ça assez long.
Peut-être au moins 20-30. Ouais.
20 minutes, ouais.
Et alors, pendant 20 minutes, en fait, c'est Hélène qui parle à l'inspecteur Charras et qui répète sans cesse qu'elle ne peut pas le dire.
C'est ça.
Pourquoi ?
Je ne peux le dire. Je ne peux le dire.
Alors, pour revenir sur l'enquête, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, le film s'attarde autour de policiers et du beau-frère qui veulent interroger Hélène, mais d'un point de vue strictement judiciaire, elle a avoué dès le début. Normalement, il ne devrait pas y avoir de film. C'est bon, allez, très bien, vous avez avoué. Bon, il n'y a pas de preuve.
Mais c'est une femme respectable. C'est pas normal qu'elle en soit arrivée là, ok?
Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, effectivement, elle avoue direct. Et en fait, l'inspecteur, il arrive. Et en fait, elle est dans le salon. Elle prend un petit café.
Vous voulez du thé?
vous voulez du sucre avec votre café, machin. Ils discutent et tout. Puis le lendemain matin, tu la vois. Genre, il y a la servante.
Non, d'ailleurs, elle, si tu acceptes pas son thé ou son café, plus de raison de vivre, quoi.
Ouais,
vous ne prenez pas de thé, un café.
Qui arrive dans la chambre d'Hélène avec un plateau, un petit déj, machin et tout. Et t'as Hélène qui est là, qui se tire. Ah, j'ai bien dormi, moi. Et donc, juste, elle a tué son mari la veille, quoi.
C'est vrai.
Elle joue la folie, quoi.
Ouais.
Ça, on comprend.
Il y a quand même un vrai drama quand, justement, elle essaye de tuer la mouche qui est dans la chambre. C'est très.
Idiote.
C'est très bien joué, quoi.
Tu es pas capturée, là.
C'est ça. Hélène lui demande de la capturer. Et comme c'est une dame du petit peuple. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de l'écraser. Ben voilà, violence tout de suite. dramatique.
Non, mais il y a quand même un écart à chaque fois entre Hélène qui est trop calme et d'un coup complètement en drama, quoi.
C'est très théâtral, en fait. On a l'impression qu'ils ont des directives, genre « Sois surprise, maintenant, elle est perdue dans le vague. » Après, c'est peut-être le style d'acting de l'époque, mais... Puis il y a des scènes un peu « What the hell ?» Genre quand ils sont dehors et qu'ils parlent du printemps.
Ah oui.
Genre... Non, ça, c'est dans le flashback. T'as André qui est allongé dehors, elle est là. J'adore le printemps. Je suis tellement heureux de vivre. Elle m'a fait « Ah, oh, c'est tellement merveilleux d'être ta femme. C'est tellement merveilleux d'être ton mari. » Tu te dis « Mais
c'est quoi ?» Est-ce que tu crois que Dieu nous regarde ?
Ça sort un peu de l'enquête, quoi, parfois. Mais c'est peut-être pour nous rappeler ce à quoi on a renoncé. La vie, le bonheur.
Oui.
Ouais, on a Hélène, en fait, qui cherche pendant tout le film Mouche André pour la détruire, selon ses mots. Parce qu'en fait, je pense qu'elle veut préserver Philippe, c'est ça qu'on comprend. En fait, elle a plaidé la folie et elle veut pas que Philippe comprenne qu'en fait, elle a tué André. Et donc, en fait, elle veut effacer toute cette histoire d'expérience qui a foiré et tout ça. Et elle essaye de trouver Mouche André pour la buter. Et en même temps, quand l'autre, elle essaie de l'écraser, elle dit « Non, ne la tuez pas !» Mais,
ouais, c'est par rapport à la timeline. Tu vois, c'est quasiment du Christopher Nolan, quoi. Avant qu'elle tue son mari, elle veut récupérer Mouche André pour pouvoir potentiellement
retenter une expérience
pour redonner. Vrai, ouais. Mais une fois qu'elle l'a tué, elle se retrouve un peu bête. Et c'est surtout qu'elle doit être, j'imagine, face à son crime.
Non, c'est pas. Je pense que c'est juste qu'au début, il pense pouvoir s'en sortir, puisqu'il lui demande. Donc, André, le scientifique, demande à sa femme trouve la mouche et on peut peut-être retenter un transfert, un truc. Et puis, au bout d'un moment, il dit qu'il commence à perdre la raison, qu'il n'est plus lui-même et que là, c'est trop tard. Surtout qu'apparemment, la mouche est sortie dehors. Enfin, bref. En gros, il n'y a plus d'espoir, donc il est temps de mettre fin à son existence avant qu'il devienne inhumain.
Oh, et j'avoue.
Il y a des moments qui ont assez vieilli. Et moi, je trouve que l'un des trucs qui est le plus marquant, c'est que souvent, les personnages nous disent l'histoire. C'est pas qu'ils ne vivent pas l'histoire, ils nous le disent. Au moment où André fait l'expérience sur lui-même, il se trouve qu'une mouche est rentrée dans l'autre machine et c'est comme ça qu'il y a eu un mélange d'ADN, tout ça. Et en fait, il l'écrit sur une feuille à elle parce qu'il peut pas lui parler et en fait elle on a l'impression qu'elle est en train de lire son script quoi elle est sortie de sa cabine elle a fait bon alors on fait quoi comme scène 2 alors chère Hélène je suis rentrée dans le pod une mouche est probablement rentrée dans le second pod nous avons donc échangé notre ADN en fait elle est en train de lire l'histoire tu dis c'est un petit peu dommage on aurait pu le voir
ça je pense ça vient du fait que ça vienne d'une nouvelle et que en fait justement les lettres les messages passés sont apparemment pour beaucoup vraiment tirés de la nouvelle. Donc il y a ce côté un peu récit, narration.
C'est là où l'adaptation aurait pu être plus intelligente parce que déjà dans le film, on a l'utilisation des flashbacks. Donc là, on aurait pu avoir une utilisation de flashbacks, de revoir comment ça s'est passé ou un truc comme ça. Quoi. Donc, voilà, je trouvais ça toujours un petit peu limite qu'on nous lise l'histoire.
Ben, oui, on sort du côté cinématographique.
J'ai une question parce que du coup je suis quand même assez curieux par rapport à ça. Est-ce qu'on sait qui est Walter Reich? C'est vrai? Ça a vraiment rien à voir?
Je dis que c'est un psychiatre.
Ah oui, d'accord. Non, bah, je manque de sommeil.
Alors, c'est marrant parce que je vais rebondir sur une anecdote parce que c'est comme si tu avais créé ce souvenir. J'ai vu sur IMDb qu'il y avait, je sais pas pourquoi ce film en particulier, mais beaucoup de gens ont cru avoir eu le souvenir d'avoir vu ce film en noir et blanc à l'époque, qui en fait n'a jamais été le cas vu que le film est en Technicolor. Et même dès sa sortie au cinéma, il était en couleur. Et plein de gens ont cru l'avoir vu en noir et blanc. Et c'est ce qui s'appelle un effet Mandela. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hallucination collective.
Surtout que ça s'appelle la mouche noire. Donc on pense noir et blanc tout de suite, tu vois.
Ah, peut-être. Ben non, mais ce qui est drôle, c'est que nous aussi, on a eu un peu cet effet, parce que j'ai l'impression, quand on a recherché le film et qu'on a vu l'image, oui. Ben moi, je suis persuadé que c'était en noir et blanc.
Moi aussi.
Alors, est-ce que c'est peut-être pas le film
moi aussi.
De 1956 ou 54 dont
est-ce qu'il y en a un, on ne sait pas.
Ah, peut-être qu'il y a un... Ouais.
Non, mais il y a vraiment un film de la mouche allemand.
Bah oui, non, mais c'est, je pense que c'est avec ça que j'ai confondu. Juste pour dire quand même, pendant que vous faites des recherches et que vous faites votre travail en retard, on est quand même en train d'enregistrer et au-dessus de nous, il y a une espèce de ruban collant là, vous savez, comme chez mamie,
ouais.
Avec bah, une dizaine de bouches qui sont collées au-dessus, donc on est vraiment dans la thématique.
Petit score aujourd'hui,
mais bon là.
Est-ce qu'il y a une mouche à tête blanche ?
Là où on enregistre, c'est un véritable génocide de mouches tous les jours.
Voilà, il fallait qu'on le fasse, qu'on leur rende un dernier hommage. Peut-être que je m'avance un peu, mais la différence entre les deux, c'est que dans ce premier-là, on n'est pas du tout sur le même gore, sur la même visuel. Enfin, je ne sais pas si c'est l'époque où il y avait un côté un peu plus prude, peut-être, ou peut-être besoin de moins choquer le public, parce que tout est vachement dans les manières, dans la propreté, dans le respect. Tu vois, le seul moment un peu crade, c'est quand André Mouche boit le léorum en faisant un peu trop de bruit, tu sais, genre.
Oui.
Genre là, c'est vraiment la limite de la tolérance.
Et en plus, on ne le voit pas.
On ne le voit pas, mais c'est déjà... Tu sens que pour elle, il a sombré de l'autre côté. Quoi. C'est plus un homme.
Tu es un pas.
Oui, en fait, moi, j'ai trouvé ça très propre et trop propre par c'est rapport au sujet du film, en fait.
C'est
gênant, en fait, avec les couleurs pastel, etc. Ouais. Tout est hyper... Enfin, le décor est planté dès le début.
Ça fait théâtre filmé un peu, hein.
Ça fait théâtre filmé, et encore, comme tu dis, on nous raconte les choses. Enfin, c'est pas forcément comme ça au théâtre non plus.
C'est ça. Bon, bref, c'est un milieu particulier avec la servante. Je me disais, moi, le seul truc qu'ils ont aucun scrupule à dégueulasser, c'est la presse, l'imprimerie, tu sais, genre, alors là, c'est bon, on peut y aller. Et puis, je te nettoie pas ça, elle aurait pu quand même nettoyer derrière
c'est
elle.
C'est vrai qu'en vrai, ça aurait pu quand même très rapidement, c'est qu'elle l'écrase 4-5 fois. Elle prend un petit seau, une éponge.
Là, elle laisse ça comme ça, elle est tellement habituée à ce qu'on nettoie derrière elle.
Elle aurait pu appeler sa servante, voyons.
Elle a appelé sa servante, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de film.
Si on veut parler du réalisateur qui s'appelle Kurt Newman, donc il était bien d'origine allemande hein, par contre.
Ah.
C'est seulement dans sa deuxième partie de carrière qu'il a fait de la science-fiction, parce que en fait il est arrivé au cinéma dans les années 20 et en fait il était chargé de tourner des versions en allemand de films qui étaient déjà réalisés par les grands studios d'Hollywood.
Okay.
C'est peut-être pour ça aussi que l'écriture des films, c'est peut-être pas forcément son truc à la base, en fait.
Ah oui, il s'adaptait.
Du coup, c'est vraiment déjà... adaptation version en allemand, en fait, comme des remakes pour diffuser les films en Allemagne, en fait.
Ouais.
Et c'était quelque chose qui se faisait pas mal au début du cinéma aussi. Enfin, là, on n'était pas au début du cinéma, mais après, quelque chose de très marqué par son époque aussi, c'est que dès 1945, il a coproduit et mis en scène une série autour du personnage de Tarzan. Donc, pendant presque 10 ans, en fait, il a fait ça. Des titres qui fleurent bon l'égalité homme-femme. Tarzan et les Amazones, Tarzan et la chasseresse, Tarzan et la femme léopard, Tarzan et la diablesse. Voilà, ça fait plaisir.
J'ai hâte de voir
ça. Ou après, oui, sur les films de science-fiction qu'il a fait, il y a des choses qui sont aussi très marquées. 24 heures chez les Martiens, par exemple, en 1950. En fait,
Jack Bauer.
Il y a d'autres films qu'il a fait plutôt en production indépendante. Carnival Story, moi je connais pas, mais apparemment c'est assez connu. Ou The Ring, en 1952, qui est un film de boxe. Film d'horreur avec une jeune fille qui sort d'une télé.
The Ring.
Dans les grandes stars du film, l'acteur principal, celui qui joue François, qui est joué par Vincent Price, que je ne connaissais pas non plus, mais qui apparemment est assez connu dans les films d'épouvante.
Il a une tête à être connu, je crois.
Donc, des trucs du style Le Retour de l'âme invisible ou d'autres titres qui ont l'air assez sympathiques aussi. Le désosseur de cadavres, puis il a joué aussi dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les films d'épouvante comme Les Dix Commandements, Laura d'Otto Preminger, une parodie de James Bond, un film italien qui s'appelle L'espion qui venait du surgelé. ça m'inspirait beaucoup, j'ai très envie de le voir.
J'ai l'impression qu'en fait, un James Bond qui sort, tu sais, d'un truc de chez Picard. Au milieu des
esprits. Oui, ça fait 15 ans
J'étais là.
Il a eu une très longue carrière, parce que dans les années 90, en fait, et il a joué l'inventeur d'Edouard aux mains d'argent. Donc c'était lui. Et il était aussi connu pour sa voix. Il a doublé plusieurs choses, comme il a fait le rôle de Cranduff dans la série Batman des années 60. Et quelque chose d'assez notable, un épisode de Scooby-Doo des années 80 où il faisait la voix de Vincent Van Gool. Voilà, et c'est ton préféré.
C'est lui où c'est le mec du musée qui finalement c'est lui le méchant, j'imagine. C'est toujours ça dans Scooby-Doo.
Oui.
Ah, mais c'était vous.
Et puis surtout, sa voix apparaît dans Thriller de Michael Jackson. Sur les autres acteurs, ils n'ont pas fait grand chose d'autre. Philippe Charles Herbert, il était un enfant acteur et qui est resté un enfant acteur en fait. Il a joué dans Le Colosse de New York ou The Monsters That Challenge the World.
Ok.
Personne ne le connaît.
À mon avis, il était dans un canapé, il fumait des clopes et il fumait des scotch, tu vois.
Moi, c'est un gamin que je me suis
dit. Il a profité de son cachet pour la mouche noire, il a tout dépensé dans la coke.
Il s'est acheté une trentaine de chats. D'ordinaire.
Ouais. Et voilà pour le Wall of Fame du film. Il y a aussi Patricia Owens qui était actrice Royaume-Uni, puis après à la Fox aux États-Unis. Et elle a fait 15 films américains donc pendant 10 ans. Mais bon, il faut savoir que c'est les années 50 et que c'est censé être l'âge d'or d'Hollywood, donc des films, il y en a qui sortent par dizaines, par jour. Et voilà, 15 films en 10 ans, c'est pas ouf non plus, quoi.
Donc c'est pas un film qui a vraiment propulsé leur carrière respective.
J'ai pas l'impression, non. Ouais, et du coup, si j'enchaîne sur les films de monstres dans les années 50, il y a un film notable qui s'appelle Them. Des monstres attaquent la ville, on veut le sous-titre. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelle La femme guêpe, de Roger Corman, qui est un producteur assez connu dans le genre. Donc en fait, ça m'a fait penser à la mouche, parce que à la mouche noire, parce que c'est aussi une histoire de tester des formules sur soi-même, etc. Donc là, c'est une femme qui teste des produits cosmétiques qui permettent de rajeunir. Mmh. Et voilà, elle va se transformer en femme guêpe, je ne sais pas pourquoi, mais je vous conseille d'aller voir les photos sur Google. Dans ces années-là, en fait, il y avait beaucoup de films justement sur les extraterrestres, quoi. Plus que des films sur des hommes insectes ou autres, même s'il y en a eu quand même. Le plus connu, c'est Body Snatchers ou L'invasion des profanateurs de sépultures, qui a été moult fois réadapté, notamment une fois en 78 et une fois en 93. Et dans la version de 78, c'est Jeff Goldblum qui joue dedans. Et donc, on le reverra tout à l'heure dans l'émission, puisqu'il joue dans La Mouche de Cronenberg. À propos des insectes, c'est plutôt les années 70, ou alors une grande recrudescence du genre dans les années 2000, avec des films comme La menace des fourmis tueuses, Mosquito Man, ou des films avec des acteurs hors du commun dans Arachnid Attack. Je vous conseille juste d'aller voir l'affiche avec la tronche de David Arquette, c'est formidable. Ou alors L'île des insectes mutants avec la grande actrice Carmen Electra. Avec un jeu assez convaincant et un langage corporel surtout.
Bah, c'est tout ce qui nous intéresse.
Qui est assez bluffant, voilà. Une seule position pour toute scène.
Les mains en avant.
Pour se protéger d'une menace venue de
Oui, et ouais. Hors du lot, du coup, j'avais noté aussi, là, du coup, c'est vraiment bien, pour le coup, je l'ai vu. C'est un film qui s'appelle Bug, qui a été réalisé par William Friedkin, donc le réalisateur de L'Exorciste, qui m'a beaucoup, beaucoup fait penser à La Mouche de Cronenberg. Mais on en reparlera après.
Genre, okay. Tout de suite.
Après La Mouche de David Cronenberg, voici La Mèche de David Cronenberg.
Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler.
Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée.
Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde.
Eux disent que si.
Oui, mais ils mentent.
Il y a une limite à tout, même à l'imagination.
la téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices.
Là où les créations les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes.
Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé.
Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite.
Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré.
Je suis persuadé que Marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société.
Non!
Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça?
Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer.
Oh non, qu'est-ce qui m'arrive?
Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe.
Ce mal qui est en toi, que veut-il?
Il veut me transformer en quelque chose d'autre.
Oh non!
Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté.
Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux.
Oh, j'ai peur!
N'aie pas peur!
Non! Ayez peur. Ayez très peur.
Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi.
Tout démarre lors d'une soirée mondaine où s'est rendue Veronica Quaife. Donc c'est une journaliste en quête de gros titres. Et là, elle rencontre un scientifique au regard un peu intense, Seth Brundle. Il l'emmène chez lui, direct, dans un hangar qui semble un peu désaffecté. Et il lui promet de lui montrer une invention révolutionnaire. Donc ça sent un peu le traquenard. Mais en fait, bah oui, il y a une invention révolutionnaire, c'est un télépod. Qu'est-ce que c'est un télépod? C'est, encore une fois, deux petites cabines qui permettent de se téléporter. Le système marche plutôt pas mal, puisque les objets inanimés sont facilement transportables. Il lui montre avec un de ses bas à Veronica, donc il y a déjà une petite tension sexuelle.
Sexy.
Mais il reste un petit problème, c'est un scientifique assez doué, mais il n'arrive pas à téléporter la chair, the flesh, le vivant en fait. Et le premier babouin en est témoin, puisqu'il finit en bouillie.
Horrible.
Traumatisme. Ouais. Traumatisme.
Alors, lorsque Veronica, elle voit qu'on peut faire ça, téléporter, elle se précipite chez son boss ex et en même temps harceleur pour...
qui est très très malaisant.
Le mec prend des douches chez elle.
Moi, je
on
ça,
est content qu'il ait encore la clé, quoi.
C'est ça.
En plus, oui, et puis il lui dit, je vais quand même garder la clé au cas où. Bah non, il a tapé les flics direct.
Donc, il n'est pas du tout angoissant. Et Seth, il est pas trop content, il arrive, il fait « Bon, ok, je veux bien que tu fasses l'histoire, mais tu me suis pendant le processus. » En gros, tu fais une cover story, quoi. Donc, ils entament une petite relation, etc. Mais un soir, ça, tout semble bien se passer, mais Seth, qui a un peu trop fêté...
Seth.
Brundle.
Ouais, ok, on va l'appeler Brundle.
Brundle, il a un peu trop fêté la téléportation du deuxième babouin qui s'est bien passé. Il est un peu bourré, Veronica est partie, on sait pas trop pourquoi, discuter avec son boss parce qu'il est encore en train de la harceler. Et quelle bonne idée il a de se téléporter, donc Brundle se téléporte. Malheureusement, une mouche que le babouin avait repérée s'infiltre dans le pod et Seth ne le remarque pas. Tout semble bien se passer, un peu trop bien même, puisque Seth semble avoir développé des talents d'athlète, il commence à... faire de la barre parallèle, des abdos sur chaise. C'est une sorte de super yogi gymnaste.
Ah oui, vous vous rappelez, en fait, cette scène, en fait, il dort, et il y a une mouche machin et tout, genre, il est en train de dormir, et en fait, il la chope en fermant les yeux, genre, comme ça, et il fait, putain, il est en train de
se passer. Là, il y a un truc.
J'ai une patate, moi. Ouais. Et après, il va faire des barres asymétriques, machin, et le mec a juste gagné les JO de... c'est un truc de ouf.
Limite, il fait toutes les épreuves de
Il fait toutes les épreuves.
Il commence le truc, après, il ramène,
genre,
il ramène un cheval.
Also check. Toi, tu disais, t'avais un peu peur que le bâtiment s'écroule.
Ouais, quand il fait la barre et tout. Moi, je me dis, j'ai confiance dans tes capacités athlétiques. Par contre, j'ai pas vraiment confiance dans la barre, tu sais. Au moment où il fait le tour, t'imagines un homme qui tombe.
Il mange des quantités phénoménales de gâteaux et de sucre. Ça devient...
Il a une grosse envie de sucre.
Véronica, elle essaye de l'informer qu'il a franchement mauvaise mine et qu'il a des poils dégueux qui commencent à pousser dans le dos. Mais lui, il est obsédé par l'idée de la faire passer dans le pod. Parce que la téléportation a, selon lui, purifié son corps.
Ouais, parce qu'il se sent vachement bien et dit en fait, si, on se désintègre, on se réintègre et genre, on est genre comme purifié, quoi.
Ouais. Mais viens, rejoins-moi.
Oui, c'est ça. Il commence à devenir un peu flippant à ce moment-là. Ouais.
Et d'ailleurs, il devient tellement sympa que, comme elle veut pas, bah, il va chercher une autre meuf au hasard dans bar. Moi, c'est ce que je ferais, perso.
C'est assez rapide hein, comme processus.
La fille, elle s'en sort au dernier moment, puisqu'il y a Véronica qui arrive et qui annonce à Brundle qu'elle a fait tester les poils, et ce seraient des poils d'insectes. Ouais. Là, Seth, il commence sérieusement à s'inquiéter. Il y a une transformation assez ignoble qui s'ensuit, boursouflure, protubérance.
Il a déjà une sale gueule à ce moment-là. Parce qu'en fait, elle essaie de l'avertir, de lui dire Brundle, mec, franchement, je crois que t'es malade. Je pense qu'il y a un truc qui s'est mal passé.
Soit t'as de la coupe rose, soit.
Franchement, c'est vrai qu'il est en forme. Physiquement, il a l'air vraiment d'être au top. Ouais. Et par contre, ouais, il a une gueule dégueulasse.
Et il est verdâtre.
Ça va pas du tout.
Un film sponsorisé Biactol.
Ah, voilà, clairement, elle commence à avoir une sorte de
Colgate.
Franchement, je vais bien.
Il vomit sur sa bouffe comme les mouches pour la digérer avant. Il perd ses oreilles, ses dents, mais ça va, ses ongles.
Ouais.
Il mange pas très proprement.
Franchement, je suis horrifié.
J'adore cette scène.
Ce moment-là où elle part et elle lui dit, écoute mec, ça va pas, il faut que tu ailles voir un médecin et tout. Et il dit, non, machin, donc il est rentre dans le déni. Et puis il va dans la salle de bain, alors, on a l'impression que ça fait une semaine qu'il s'est pas regardé dans le miroir. Elle fait, ah ouais, merde. Et là, il commence à s'enlever un ongle qui part tout seul.
Ouais. Et ça, et ça le choque pas, quoi.
C'est dégueulasse. Et là, il se rend compte, il s'assied, il fait, ok, je vais mourir. Il y a un truc qui s'est mal passé.
C'est vraiment
là,
le body,
il prend conscience du truc.
Ouais, body horror, bien dégueulasse. Pendant ce temps, bah, on oublie un peu Véronica, mais en fait, elle apprend qu'elle est enceinte de celui qui s'appelle maintenant, elle est enceinte donc de celui qui s'appelle maintenant Brundle Mouche.
Il s'appelle lui-même Brundle Mouche. Ouais. Il a pas mal d'autodérision,
malgré ce qu'il lui arrive. Genre, il dit, ouais, je me suis fait téléporter, on s'est même pas présenté avec la mouche. Enfin, bref, c'est vraiment mignon.
Ouais, c'est assez drôle.
Et comme elle a peur de donner naissance à une larve, elle souhaite se faire avorter.
Oh là là.
Mais Brundle l'enlève, car lui, il a une meilleure idée. Pourquoi pas fusionner à trois?
Bah oui.
Pas,
Cette proposition, franchement, qui refuserait quoi? Il est tout dégueu en mode mi-homme, mi-mouche. Et il dit, écoute, Véronica, viens avec le bébé, on va tous fusionner. Et en fait, on va être la famille idéale, tous les trois, en un seul corps. Et la meuf, bizarrement, elle dit, mais je sais pas.
Elle qui est magnifique, lui qui est tout dégueulasse. Franchement, je pense que j'ai plus sa que toi, mon gars.
C'est ça, lui, il veut réduire le pourcentage, puisqu'il est scientifique avant tout. Réduire le pourcentage de mouche en lui.
Ouais.
Il voit pas les conséquences peut-être humaines de son envie.
Il a reprogrammé son setup scientifique où en fait il a inclus un troisième pod qui était le prototype initial.
Ouais, vrai,
et du coup il a trois pods et son idée c'est, on le voit quand il trafique son ordi là, voilà, d'avoir un humain sain on va dire, lui dans une télépod et genre fusion pour redevenir un petit peu plus humain. Parce que là,
Le rêve de tout un chacun.
Bien sûr.
À ce moment-là, le boss ex-harceleur est un peu moins horrible, enfin forcément à côté de Brundle. Et il arrive pour essayer de sauver Véronica, mais il perd sa main et son pied est réduit en bouillie par l'acide. S'ensuit une confrontation et notre cher Brundle fusionne non pas avec un humain, mais avec un télépode. Il n'avait pas vu venir et personne n'avait vu venir. Et là, franchement, c'est un peu triste. Donc, Véronica est obligée de, d'abréger ses souffrances. Hein. Mi-Brundle, mi-mouche, mi-pod.
Ouais. C'est Brundle-pod, ça.
Mouche-pod, pod-mouche.
C'est de pire en pire.
C'est dégueulasse. Et donc, elle lui tire une balle dans le crâne.
Et encore, elle hésite. Hein, ça lui...
ouais, bah, moi, franchement, j'étais vraiment émue sur cette scène. Non, vraiment.
C'est vrai.
C'est vrai.
Moi, j'étais là, mais genre, vas-y, tire, quoi. C'est vraiment dégueu, quoi.
Il y a encore un peu de Brundle, quoi.
Non, tu vois, avec sa patte mi-homme, mi-mouche, mi-pote, tu vois, il prend quand même le fusil parce qu'il n'y arrive pas et tout. Il la met sur sa tête de mouche
il
en mode,
dit,
non, mais vas-y,
quoi.
S'il te plaît, j'en peux plus.
Il lui donne l'autorisation.
C'est une histoire d'amour, en fait.
Bah,
en fait, c'est ça qu'on oublie. En vrai, la mouche, c'est une histoire d'amour.
Et c'est une histoire de fusion aussi, plus globalement.
D'amour fusionnel, un peu trop.
Mais c'est vrai.
Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Et les effets spéciaux, même si c'est un truc des années 80, c'est quand même assez bluffant. Je trouve que les maquillages sont assez fous. D'ailleurs, il y avait eu plusieurs récompenses pour...
Walter Reich
non. Non, Chris Wallace, qui a en fait réalisé La Mouche 2. Après.
Oui, aussi. Qui a regretté d'ailleurs, je crois.
Je sais pas, je n'ai pas vu La Mouche 2, mais tu nous en diras plus tout à l'heure, je pense.
Tu l'as vu?
Oui.
Oh my god. Okay.
Je l'avais déjà vu.
Bah, par rapport à La Mouche Noire qu'on a tous adoré ici, hein, on est d'accord.
Une enquête prenante,
j'ai trouvé ça hyper direct, hyper intense dès le début. En fait, on n'a pas le temps de se poser trop de questions. Et c'est très concis, c'est hyper bien construit.
Ouais.
La sauce prend rapidement. Quoi,
la sauce aux enzymes.
Contrairement à La Mouche Noire où rien ne prend, hein, pour ma part. Donc un remake assez bénéfique finalement.
Carrément.
Il y a un espèce de goût du morbide qui crée une angoisse assez rapidement aussi chez le spectateur. Et puis la réflexion sur les relations fusionnelles, l'isolement aussi, parce que en gros, elle vient le voir, mais on se demande comment elle arrive à supporter tout ça.
Ah, franchement, quand elle vient le voir et qu'il est en mode déjà transformation avancée.
Avec les béquilles, là.
Et lui, il est en mode, non, mais me regarde pas, tout ça et tout. Et elle a juste envie de lui faire des gros câlins.
Mais il était là, il fait pas de câlins.
Et là, tu dis, franchement, elle est vraiment amoureuse.
C'est vraiment de l'amour.
Ouais, clairement.
Bah justement, c'était bien fait parce que les effets spéciaux, qui sont complètement dégueux, sont super bien réussis. Et ça sert vraiment le propos du film, en fait. Voilà, c'est indispensable. Et d'ailleurs, à un moment, il parle de la poésie du steak.
Oui, exactement.
J'adore la dialogue aussi.
Voilà, je trouve que c'était une idée assez fascinante.
La chair, l'obsession pour la chair.
Du coup, oui, en fait, le côté effets spéciaux, c'est pas pour rien parce que David Cronenberg est quand même assez connu du genre. Hein. Il est spécialiste de ce qu'on appelle le body horror. C'est vraiment les films d'horreur qui sont vraiment tournés autour de, vraiment de la chair. Tout à l'heure, on parlait de la chair dans ce truc-là. C'est souvent, il y a vraiment, il y a des chairs, des trucs putrides, voilà, il y a des fractures. À un moment, Brandol fait un bras de fer avec un mec, il lui casse le bras et on voit que c'est...
Fracture ouverte.
C'est une des scènes qui m'avait beaucoup marqué.
C'est ça, 6 semaines.
Et pour le coup, c'est bien fait dans le sens où, alors j'ai jamais vu une fracture ouverte, mais je pense que c'est assez réaliste. Et il n'en fait pas trop non plus. À la fois, il est obsédé par le corps, mais d'un côté, il n'en fait pas trop. Moi, j'avais vu plusieurs autres de ses films. Notamment les promesses de l'ombre. T'as des mecs qui se battent à poil dans un sauna et tu sens les coups, quoi. T'as l'impression de tout ressentir, quoi. Donc il est assez obsédé par ça. Il y a aussi un film qui s'appelle Existence, qui est un peu dans le monde du jeu vidéo, mais avec des manettes qui sont un peu organiques, en fait, qui ressemblent à des gros bouts de chair, de kyste, quoi. C'est un peu dégueu, mais c'est un peu sa marque de fabrique.
Ouais, c'est très viscéral, en fait.
C'est ça.
Et justement, j'en reviens au film Bug, qui n'a pas été réalisé par Cronenberg, mais par Friedkin. C'est un film de 2006, et en fait, on a justement cette idée de la fusion des corps, etc. Et on a en fait deux personnages, la plupart du temps. Je crois qu'il y en a un troisième à un moment, mais il ne dure pas très longtemps. Et en fait, c'est vraiment une fusion aussi avec les insectes qui sont autour d'eux, dans leur maison, etc. Si vous n'avez pas vu le film, je vous spoil un petit peu. Mais en gros, c'est comme s'ils étaient en train de se transformer aussi, sauf que c'est plus une obsession de comme quand on a été piqué par des moustiques, on a l'impression de ressentir que ça, etc. Ouais. Puis au fur et à mesure, en fait, c'est comme s'ils étaient en fusion. Ils s'arrachent des dents parce qu'ils ont l'impression d'avoir des insectes dans les dents, etc. Mais tout est faux. Et c'est assez fascinant, la façon de traiter les corps, la peau, il y a plein de gros plans, etc. Enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Ça fait vraiment penser à ça, le fait de travailler sur la chair, etc. C'est bien dégueu comme il faut aussi. Et en fait, c'est plus un truc psychologique alors qu'on nous montre que du physique.
Ouais, c'est ça.
Je me rappelle pas que c'était aussi dégueu, en fait. Parce que je l'avais vu, je pense, quand j'avais 10-12 ans. Et je me rappelais, il y avait quelques scènes un peu marquantes, effectivement, que j'avais en tête. Je me rappelais du scénar, de Jeff Goldblum et tout ça. Mais je me rappelais pas que, sur le dernier tiers du film, quand il commence vraiment à se transformer en mouche, c'était à ce point gluant et dégueu.
Cette impression de déjà-vu.
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
Il y a trois persos en fait dans le film. C'est une sorte de. C'est pas un huis clos, mais presque en fait.
Et encore, le troisième pourrait ne pas être là.
Ouais, quasiment.
Le mec,
ouais.
Il est là pour ajouter un petit peu de.
Il y a la fille là qui est chopée au bar.
Pour pas qu'elle soit trop folle, quoi. Et encore. Mais en soi, ça pourrait être que tous les deux.
Bah c'est ça, c'est qui fait l'intensité du truc. C'est leur relation qui démarre sur les chapeaux de roue.
Ouais, moi, pendant le film, j'avais quand même pas mal d'empathie envers Véronica. Ouais. Parce que la pauvre, en fait, elle rencontre Brandel. Ils sont amoureux, commencent à vivre une idylle, tout ça. Ils parlent de partir en vacances. Voilà, c'est une belle histoire d'amour qui commence. Et puis, bah voilà, Brandel qui devient un Brandel mouche. Elle, en fait, son entourage, t'as l'impression que c'est juste son boss.
Qui est horrible.
Avec qui ils ont une relation. Et qui est un gros connard sexiste, qui la harcèle et tout.
Ouais.
À un moment donné, il lui fait du chantage, je sais plus, par rapport à la publication de son article sur cette histoire-là et tout ça. Et il lui dit, non, mais je veux juste pas sortir de ta vie et tout. Et elle fait, ouais, bon, ok, machin et tout. Et après, fait aussi pour le sexe aussi. On peut mettre ça dans le contrat, machin.
Plusieurs fois dans le film, en plus, vraiment, il insiste après. Ouais.
Et en fait, c'est lui qui va la sauver quand même à la fin. Donc il se rachète, entre guillemets. Il y perd quand même une main et un pied. Brandel Mouche, il a perdu la tête. Hein. Et en fait, c'est marrant parce que t'as vraiment tout le maquillage, machin. Jack Goldblum, c'est une mouche, quoi. Et rien que les yeux, quoi, c'est ouf. Dans le regard, t'as vraiment, en fait, des émotions qui se dégagent. Et il est super content de vomir sa bile, là, comme ça, qui désintègre tout sur...
Il avait des problèmes de digestion avant et tout va mieux. Tout va mieux depuis.
Il est super content d'utiliser son pouvoir sur le mec et c'est bien dégueu.
Apparemment, c'était plusieurs heures de maquillage par jour sur le tournage.
Ouais. J'imagine surtout sur la fin.
On n'a pas évoqué la scène de l'accouchement, mais c'est quand même la pire scène. Elle fait un cauchemar, elle imagine qu'elle accouche d'une larve, mais d'une larve géante, quoi. Ouais.
Ah, c'est vraiment écœurant. Et à ce moment-là, en fait, quand elle est dans les couloirs de la maternité, qu'est-ce qui l'accompagne? Bah, c'est son boss, quoi. Et donc, je me dis, putain, mais cette nana, a vraiment personne dans sa vie, quoi. C'est horrible, quand même, dans ces moments-là.
Ouais. Bah,
c'est
ils son sont boss. Tous très isolés, en
c'est
fait.
C'est un peu sur, les workaholics. Enfin, genre, c'est sur des gens qui sont obsédés par leur travail, en fait. Ouais. Autant Brundle, qui est tout seul en bas, elle est en mode journaliste, faut que je trouve le gros titre. Au début, elle est pas si innocente parce qu'elle s'attache à lui, mais elle est surtout là parce qu'elle a sniffé le bon plan. Donc ils sont voilà, ils se coupent de tout pour l'obsession de
ouais, vivez votre vie merde. Story d'un film de super-héros, mais qu'on est raté. Il y a vraiment toutes les composantes qui pourraient être un peu à la Spider-Man, Hulk et tout.
Ça existe, Flyman ou pas?
Flypod.
L'homme-mouche.
Probablement, il y a eu tellement de trucs. Ouais. Mais en fait, ça commence vraiment. C'est vraiment comme un Spider-Man qui se fait piquer par une araignée et finalement.
Qui développe des super-pouvoirs au début.
C'est vraiment Spider-Man au tout début. Quoi. C'est vrai. Oh putain, il est fort et tout, il a de l'énergie. Et en fait, là, c'est ce qui se serait vraiment passé si Spider-Man avait existé, c'est que t'as quand même de l'ADN d'insecte, donc tu vas avoir le côté insecte. Ouais. Quoi.
Et la psychologie de l'insecte, il parle à un moment qu'il est en train de perdre son humanité parce qu'il pense comme un insecte et qu'il va être violent et que s'il a besoin d'être violent, il le sera.
Il lui dit à Véronica, reviens plus, machin, parce qu'il sait qu'en fait, il est en train de perdre pied. Que...
C'est de la convaincre de ne pas revenir, pour la préserver aussi, quoi. Mais bon, évidemment, elle revient. Et puis, il parle de politique aussi à ce moment-là, en fait, dans le sens où c'est quelque chose de très humain. Et je trouvais ça intéressant, respecter justement. En fait, il se rend compte vraiment du switch psychologique qui est en train de se passer.
Et il dit qu'il veut devenir le premier insecte politicien.
Ce qui est assez différent avec l'original, c'est que le film est assez pessimiste. C'est-à-dire que très vite, on va savoir que ça va mal finir. Alors que dans l'original, on a un peu un suspect, ils essayent de corriger les erreurs. Lui, en fait, il n'essaye pas de corriger les erreurs, il n'y a pas de mouche Brundle dans celui-là. Il n'y a que Brundle mouche.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, on sait qu'il va de pire en pire. Et je trouve que ça correspond un peu au style et puis à l'ambiance très glauque quoi, des films années
80. Mais il 80. Reste, ça ne devient pas un méchant pur dans le sens où peux comprendre qu'il il s'accroche en fait aussi à ce qui reste parce qu'il sent qu'il est en train de disparaître. Moi, j'étais quand même triste à la fin. Alors j'ai lu que c'était un peu une vision des fins de vie, maladie, mais je sais pas si moi j'ai pas trop vu ça comme ça. Je sais pas si vous avez ressenti ça comme une métaphore de quelqu'un qui aurait un cancer ou qui aurait.
Il y a un peu de ça parce qu'en fait il sait qu'il est condamné quoi. Ouais. Celle le comprend assez vite et donc après en fait il a un sursaut d'instinct de survie où il se dit en fait non je pourrais reprogrammer mon truc et récupérer de l'ADN humain et il veut faire en fait le process inverse quoi. Il veut fusionner avec des humains pour revenir un petit peu dans son humanité. En fait il le dit assez rapidement, il part en lambeaux quoi, il met des gants pour taper au clavier parce que sinon
la machine reconnaît plus sa voix aussi,
sa voix parce qu'il est en commande vocale en fait et
moi je trouve qu'il y a un petit détail qui serait venu de l'original qui aurait pu un petit peu améliorer le film, c'est de pas voir que la mouche rentre dans le pod quand il fait son truc. C'est-à-dire qu'on est toute la première partie du film où on dit ah bah il a réussi et en plus il se sent bien. On se dit ah bah c'est cool. Et quand on commence à voir qu'il a des trucs dans le dos, nous on sait pas qu'il y a une mouche, donc ça pourrait être vraiment ça pourrait faire monter le suspense. C'est que c'est seulement après l'analyse de la fille ou peut-être que lui qu'il aille dans l'ordinateur et d'avoir ah merde, je me transforme en mouche. Ça change pas grand chose, mais
je trouve qu'il y a déjà beaucoup de suspense. Puis surtout, il pense en fait il y a eu un truc, mais on sait pas, tu vois. Elle aurait pu être, il croit qu'il l'a absorbé à un moment. Est-ce que j'ai absorbé la mouche? Il demande ça sur la machine. Et là, quand la machine met « non, non, fusion au niveau génétique », Bon, ça va mal, ça va mal se passer. Oh non.
Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que le fait de voir la mouche dans le pot, t'as raison, Maxime. En fait, je te rejoins la réflexion parce que après, on voit cette explication là, quoi. Quand il interroge la machine sur qu'est-ce qui s'est passé, donc c'est un peu inutile. Enfin,
ça aurait pu laisser un peu plus de suspense. Mais bon, vu que déjà le film s'appelle La Mouche, je pense que c'était déjà gagné.
N'empêche que ils auraient pu s'en douter un petit peu parce que c'est pas que l'hygiène. Laisse à désirer dans le hangar, mais pour faire des expériences en milieu stérile, il y a mieux. Donc voilà, moi je dis, on a ce qu'on mérite.
À un moment donné, en fait, ils shiftent en mode.
Pardon, j'ai cru que t'as dit un truc.
Ils shiftent en mode mouche. Et en fait, Véronica vient le voir. Au début, il lui dit non, mais attends, me regarde pas, je reste dans le machin et tout. Et quand il prend cookie ou je sais pas quoi, un brownie là, et qu'il vomit dessus pour le prédigérer finalement. Elle regarde, et lui fait. Oh, c'est dégoûtant.
Pardon, je suis dégueulasse. Excuse-moi.
Et c'est juste après qu'il ait perdu son oreille d'ailleurs.
Après, dans cette scène-là,
il y a beaucoup de choses.
Ah, moi j'ai rigolé là.
Ah ouais, mais moi aussi. C'est vraiment très drôle. Ça tombe et tout. Il fait oh mon oreille. C'est oh là là.
Il est tellement en train d'accepter ce qui lui arrive, tu sais, genre il fait un petit cabinet des horreurs dans sa pharmacie, genre tu veux voir le musée Brundle. T'as des oreilles, t'as des dents, t'as le mec. C'est vraiment devenu une sorte... En fait, il est scientifique, quoi. Il est en train de documenter sa propre disparition. Il veut qu'elle le filme.
Il y a ça aussi entre les deux personnages des deux films. Je trouve une différence. Enfin, c'est deux scientifiques, mais dans le premier film, t'as le bon père de famille, bien propre, machin, qui, du coup, n'ose même pas faire des métaphores sexuelles, quoi. C'est juste que, par exemple,
sa femme,
elle est d'humeur non scientifique.
Ah, cette réplique.
Et à côté de ça, bah, du coup, dans La Mouche, on a plutôt le gros geek hyper isolé. Du coup, on trouve justement ces attitudes peut-être de super spécialiste d'un truc, hyper passionné, qu'on n'a pas dans La Mouche Noire.
C'est ça. Puis d'ailleurs, il se révèle un peu... Avant, il restait tout le temps enfermé. Et quand il commence à sentir cette espèce de dose de dopamine ou je sais pas quoi... Qu'il est comme un ado, quoi, qui est là, je peux faire ce que je veux, je peux monter là, il devient une bête de sexe, entre guillemets, mais tellement sort, que personne n'en veut plus.
Il sort en montant en cuir son t-shirt, et tout, il est fou, quoi.
Tu m'étonnes qu'il sente après. Cuir sur peau, là, non, ça va pas. Mouche 2, c'est le fils donc de Brundle et de Véronica qui a été.
Pas une larve.
Ah oui, parce que finalement,
elle n'a pas pu.
C'est vrai qu'à la fin, elle n'a pas pu avorter parce qu'en fait, quand elle est dans la maternité pour vraiment avorter, et là, c'est plus un cauchemar. C'est à ce moment-là où il arrive, parce qu'il a, entendu la discussion.
Quasimodo style, quoi.
Et il l'enlève et il la ramène dans son entrepôt. Ouais. Pour... Ok, d'accord. Donc la suite, c'est ça.
Bah, donc la suite, très c'est bien. Ça. Sauf qu'elle elle accouche dans une entreprise qui a la main sur l'enfant, en fait. Donc l'histoire, c'est le petit Brundle, je sais plus comment il s'appelle, Martin.
Brundle Mouche Junior.
Brundle Podmouche Junior. Non, et donc voilà, c'est lui, il accepte sa condition, il est sous, c'est une bête de.
Il est sous l'exomile.
Et voilà, en fait, il pense qu'il a une vie normale, sauf que voilà, la transformation va petit à petit arriver et il va se sentir trahi par l'entreprise. Le directeur se présentait comme son père spirituel, machin, alors qu'en fait, ça fait des années qu'il attend juste de pouvoir étudier cet être-là. Et on retrouve quand même le boss, c'est le seul acteur qui a accepté de rejouer... dans La Mouche 2, qui joue super mal. Il a plus de mains, il a plus de pieds, mais il est à moitié alcoolique, puis il est là, il fait « Qu'est-ce que vous voulez ?»
En même temps, c'est super gênant. Il y a de quoi avoir un gros traumatisme, après ce qu'il a vécu.
Ouais, mais voilà, c'est le vieil ermite.
Il est toujours aussi insistant avec les femmes ou pas?
Non, pas trop, mais...
Comme quoi, il a eu une leçon de vie, quoi.
Ouais, bah on le voit pas longtemps, mais...
Ce qu'on constate, c'est aussi que Véronica a toujours un petit peu la main sur sa vie, quoi. Son enfant est pris par une entreprise.
Bah, elle est morte après.
Ouais.
Ouais, en donnant... Bah, la naissance, c'est pas très bien.
Si je peux. Mais alors, du coup, c'est un bébé humain ou c'est déjà...
Alors, il est humain. En fait, au début, il naît comme une larve dans un cocon. Oh.
Okay,
mais c'est un bébé qui sort de la larve. Et il a une apparence humaine tout le long, sauf qu'en fait, il vieillit à une vitesse phénoménale. Genre, il
est censé avoir... bien le film. Ça.
Parce que la durée de vie des mouches,
oui, combien de temps vit une mouche?
C'est une question qui se pose effectivement dans la bouche de 1954.
Ouais. Deux semaines. Ouais.
Hein?
Non, ah, c'est souvent le.
Ah bon, mais en comptant la période de larve.
Nous, on en a une accrochée à la trappe.
Ah oui, dans la période larvaire, il y a différentes périodes effectivement.
Et donc, à 5 ans, il a déjà l'apparence d'un mec de 20 ans, en fait. Et là, il commence la dégradation. Il n'y arrive pas parce que vers 20 ans, il commence à devenir une mouche, en fait. J'avais vu La Mouche 2 il y a longtemps. Et il y a cette scène, parce qu'il vit donc dans l'entreprise et il voit, en fait, il s'attache à un des chiens de l'entreprise. Et en fait, qui a un chien destiné à être testé, quoi, téléporté. Et le directeur lui promet que non, bah ça s'est mal passé, mais on a abrégé ses souffrances rapidement. Et en fait, il découvre que le chien est gardé dans une cellule depuis des années qui ressemble à rien. Genre, c'est le babouin, le premier babouin, mais genre qu'on aurait gardé en vie, tu vois. Mmh. Et là, je me souviens que ça m'avait bien traumatisée, petite. Quand il découvre que tout le monde lui a menti et que le chien qu'il aimait était gardé comme
une vie.
Voilà.
Oh là là, c'est horrible. Oui,
c'est horrible.
Tu le recommandes ou pas, ce film?
Si on a aimé La Mouche...
Non.
Si, parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est largement moins bien. Non, ça vaut pas, mais pour rester dans l'ambiance, quoi.
Ça a l'air nanardesque, en tout cas. Enfin,
ouais, un peu, quand même.
Ouais.
Ça l'est. C'est un numéro 2.
C'est un numéro 2.
Il y a pas une mouche
3. C'est un numéro 2 de science-fiction.
Non, par contre, il y a eu deux suites à la Mouche Noire. J'ai lu
ça. Oui, c'est vrai. Il y a eu deux suites à La Mouche Noire.
Ils ont fait cette fois-ci en noir et blanc, à part.
Par contre, ils ont gardé l'acteur Vincent Price.
Vincent Price.
Et sur La Mouche, il y a eu aussi d'autres adaptations. Enfin, ça a été beaucoup repris, en fait. Donc, adapté à la radio dans les années 60, à la fin des années 60, dans une émission qui s'appelle Au Théâtre de l'Étrange, sur France Inter. Et puis après La Mouche de Cronenberg, il y a eu aussi d'autres adaptations. Donc en jeu de rôle, l'année juste après, en 1987, dans un magazine qui s'appelle Chronique d'Outre-Monde. Et puis après, dans les années 2000, ça a été adapté à l'opéra, avec la musique de Howard Shore, et puis au théâtre aussi, en 2020.
J'aurais bien aimé voir
2020,
ça.
Dis donc.
Et oui. Et Cronenberg a travaillé sur ces deux adaptations aussi.
Ah ouais, ça se prête bien, je vois bien ça en pièce de théâtre.
Oui, c'est ce qu'on disait justement, c'est assez réduit au niveau du nombre de personnages, au niveau du nombre de décors, etc. Ça peut être très théâtral alors que...
Niveau maquillage, je sais pas comment ils font.
C'est ça. Nous, on a déjà la mise en scène. Tu fais un lâcher de mouche dans le public, tu vois, un truc de fou, quoi.
Oui, mais nous, on était plus sur l'adaptation de La Mouche Noire, c'est-à-dire que se mettre dans le public avec des petits filets pour aller chercher.
Bah ouais, mon père.
Tu fais un lâcher de mini Philippe dans toute la pièce. Dardinette.
Et je pense que le film aurait pu être vraiment différent parce qu'à la base, c'était Tim Burton qui avait été pressenti par la Fox pour réaliser ce film. Alors qu'il travaillait en plus encore chez Disney. Enfin, du coup, c'était vraiment une patte différente, quoi.
Une patte des mouches.
Des mouches.
On va faire un petit pari sans aucun risque. Qui aurait été les acteurs?
Johnny Depp.
Et Hélène Bonham Carter.
Oui, c'est bon.
Et puis, Seth Brundle a failli être interprété par Michael Keaton.
Ah ouais. Oh, Marc, ça aurait pu. Je trouve que Jeff Goldblum et Gina Davis sont quand même excellents parce que déjà, ils ont des gueules.
Ouais.
Et pour un film sur le physique et à la fois sensuel et en même temps dérangeant, je trouve que
ils sont parfaits. Bien castés.
Oui, il y a Gina Davis aussi, du coup, le rapport avec Tim Burton, elle a joué dans Beetlejuice.
Oui, c'est vrai.
Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture.
Quel est le meilleur? On va refaire un petit tour de table, Vincent.
Le 86.
Ah, 86. Hein.
Évidemment.
Formidable. Bah oui, hein. Formidable. Mm. Géraldine, je pense que.
Oui, le 86, sans hésiter.
Ouais, Team Crocro.
Team Crocro. Et moi aussi, hein, bien évidemment. En tout cas, ça fait plaisir de voir un remake qui est bien.
Qui est très bien. Et qui prend sa propre direction, quoi.
Ouais. C'est cool quand c'est de choisir un film où l'original il est bien et le remake il est bien aussi.
Oui,
non, mais... en fait, à chaque fois, il y a quand même. on comme perd, une punition, ouais. Quoi.
Il a un petit peu subi, alors que je trouve pas si nul que ça. Hein, mais non. C'est, en fait, je savais qu'il fallait que je le subisse avant de voir l'autre. Que je...
Vraiment, très bien. Tu le trouves pas si nul que
c'est
ça.
C'est une autre époque.
Bah, en vrai, je l'ai pas mal vécu. En plus, il est court. Mais...
Avec le... Oh,
chacun. C'est Maxime sur le canapé. Ah, moi, j'ai fait du x2 parfois.
T'as fait du x2.
Ah, oui, certaines scènes. Quand on va dans la cuisine chercher du lait ou je sais pas quoi, et ça dure deux plombes, et qu'on la suit, bon, bref.
Il y a un thème sur le lait, hein, le lait au rhum, le lait pour les chats, ouais. Je pense qu'on tient quelque chose, il y a un message caché.
Il y a un message dans
et
le lait.
Et bah c'est sur cette question très...
Envoyez-nous vos commentaires.
Envoyez-nous notre avis, allez.
Le lait pour les chatons, oui ou non.
On veut plein de commentaires, ouais.
Abonnez-vous à la chaîne
et pouce bleu.
Et ouais, cliquez sur la petite cloche. Hein.
Mais on a quand même une pensée émue pour Dandinette. Hein.
Dandinette.
Oui. Dandinette. D'ailleurs, on sait toujours pas où elle est parce que visiblement, elle s'était portée nulle part, mais on l'entend quand même.
Petit ange parti trop vite.
Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. On ne sait pas encore sur quoi, mais on
va trouver.
Dessiner.
En tout cas, ce sera un remake.
Oui, et un original. Et ouais, ça changera pas ça. Au revoir à tous.
Ciao.
Bye bye. C'est un film de 1958, je tiens à
rappeler. C'est vrai.
De Kurt Newman.
Ouais, Kurt, ouais. Kurt Newman.
Exactement.
C'est parce que j'ai mal prononcé, mais ouais.
Alors.
Le regard de tout le monde quand j'ai sorti ce nom que personne n'avait jamais entendu. Incroyable. Bah, apparemment, je suis allé faire ça.
Oh là là, Jean-Michel à peu près.
Oui, c'est moi.
Une tête d'humain blanche. Elle est très étrange comme moche. Je l'ai relâchée.
Bon, je vais pas faire.
Elle joue dans Beetlejuice.
Oui, c'est vrai qu'elle joue la mère.
Ouais.
Ah oui.
Non, elle joue la fille.
Ah oui. Non, c'est Winona Ryder, la fille.
Ah, ah oui.
Ah oui.
Attends, oui. Oh.
Attends, elle joue Beetlejuice.
Je retrouve ma note, bien évidemment.
Pendant ce temps-là, on va faire un concerto à bouche.